les années 70, Jean-Guy Hincal cherche une solution pour redonner un emploi à des personnes entraînées vers l'exclusion. Il fonde avec quelques collègues une menuiserie d'insertion et devient ainsi entrepreneur social. En 1991, il crée le premier jardin de Cocagne, un concept s'inspirant d'un modèle suisse alliant le principe des circuits courts de distribution avec des clients qui sont aussi adhérents de l'association. Rapidement, ces jardins suscitent l'intérêt de nombreuses personnes dans toute la France, et le réseau Cocagne compte aujourd'hui près de 120 jardins. Chaque semaine, ce sont 20 000 familles d'adhérents consommateurs qui reçoivent leur panier de légumes biologiques. Jean-Guy Hincal est le colibri de notre émission.
Un incendie monstrueux dans une forêt, un petit colibri a amené sa goutte d'eau. C'est ce qu'on essaie de faire dans les jardins de Cocagne face à un monde qui ne va pas très bien.
Alors qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce que c'est l'incendie pour toi? Quand tu vois la forêt qui brûle, qu'est-ce que tu vois derrière ces flammes?
Oh, je ne suis pas le seul à le voir, puisqu'a priori, je lisais ce week-end un rapport écrit par le président des banques suisses qu'on ne peut pas taxer comme d'un dangereux révolutionnaire. Et d'ailleurs, qu'on aille à Porto Alegre ou à Davos aujourd'hui, on entend la même chose. Dans les 20 ans qui viennent, une conjugaison de crises vont s'entrecroiser. Crise économique qui a largement déjà commencé par une financiarisation outrancière, qui crée des écarts énormes entre les riches et les pauvres, qui ne sait pas fonctionner sans un effet centrifugeuse en créant de l'exclusion partout où elle passe, même si elle crée des richesses. Doublé à ça des crises écologiques majeures de réchauffement de la planète, etc. etc. Je ne vais même pas faire l'affront de vous les rappeler, vous les connaissez par cœur. Lié à ça une crise démographique qui fait qu'on annonce 9 milliards de personnes en 2050. Lié à ça une crise énergétiques qui montrent où les experts sont totalement out aujourd'hui, puisqu'ils sont en train de se battre pour savoir si le pétrole, il n'y en aura plus en 2025, en 2030 ou en 2035. Enfin, c'est plié, il faut inventer autre chose. Donc, conjugaison de toutes ces crises-là, c'est une conjugaison que l'humanité n'a jamais rencontrée. Donc, c'est ça mon incendie. Et donc, on sait, à travers notre petite pratique dans les jardins de Cocagne, que même si on a été un tout petit truc minuscule, un tout petit colibri perdu au milieu des champs, on a montré qu'on pouvait articuler social, écologie et économie. Donc en l'occurrence, on a été des petites éprouvettes au fond du laboratoire qui mériteraient, face à cet incendie, à cette crise, de sortir et de dupliquer, de faire changer d'échelle aujourd'hui.
Alors toi, sur tes valeurs, ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené un jour à vouloir développer le concept des jardins de Cocagne ?
Quand j'ai monté le premier jardin de Cocagne en 1990 à Besançon dans l'Est de la France, j'en étais pas mon premier coup de monter des entreprises dites d'insertion puisque j'ai commencé en 75. La première, on a monté une menuiserie parce qu'on était trois potes et un soir on a décidé de faire quelque chose pour des gens en difficulté. Et on a monté une menuiserie parce qu'il y en avait un qui avait été menuisier, donc tu vois le business plan était vite mené. Ce qui est drôle, c'est que 45 ans après, elle est toujours là, cette entreprise. Donc ça montre qu'on peut avoir amené d'autres choses que simplement des business plans d'école de commerce. Et puis donc le jardin de Cocagne dans les années 90, le premier, et on n'avait aucune velléité en monter d'autres, c'était simplement de se dire, il y a des agriculteurs en difficulté, je m'occupais de SDF en centre d'hébergement, comment tous ces gens-là pourraient retrouver une activité qui a beaucoup de sens. Donc c'était vraiment pour régler un problème de territoire, absolument pas pour en coller dans toute la France. Mais il faut croire que ces premières il y a eu beaucoup d'activités d'insertion avant, mais une qui amène autant un ancrage territorial, autant une dimension écologique, en particulier environnementale, à travers la pratique de l'agriculture biologique. Importés, on a été les premiers en France largement avant tout le monde, même nos amis des AMAP qui sont venus 15 ans après, mais dans les années 90 il n'y avait personne qui faisait des paniers de légumes distribués à des adhérents consommateurs. Donc tout ça est en train de se généraliser, donc il faut croire que c'était la bonne idée qui arrivait au bon moment, portée par les bonnes personnes. Donc en l'occurrence, il a fallu après apprendre un autre métier, parce que trouver, comme tous les petits colibris, son petit trou, sa petite initiative quelque part, c'est un métier. Si vous avez eu la chance de trouver la bonne chose qui peut servir à d'autres, vous rentrez dans un autre métier, c'est comment je vais dupliquer, comment je vais changer d'échelle, comment je vais faire. Donc on rentre dans un domaine qui est plus celui de l'entrepreneuriat social. Et là, ça a mené beaucoup de joie, mais c'est très complexe tout ça.
On va essayer de donner une dimension visuelle au jardin. Donc ensemble, tu vas m'emmener dans un jardin. et tu vas me le présenter, me montrer ce qu'on y trouve, quelles sont les personnes qui y travaillent, quelles sont leurs tâches, leurs missions, leurs rôles.
Alors tout d'abord, on est, comme tu le vois, on n'est pas au milieu d'une petite parcelle de 150 mètres carrés, on est dans une exploitation maraîchère de 5 hectares. Ce jardin de 5 hectares, donc c'est une grosse exploitation, on va y planter des légumes de saison, pas 4 ou 5, ou 6 ou 7. 6 ou 7 légumes, c'est ce que mange le français en moyenne, en variété. Nous, on va en faire entre 70 et 110 différents. Donc on va y trouver des légumes anciens, on va y trouver une grande diversité, on ne va pas y trouver deux modèles de tomates ou trois de salades, on va en trouver des dizaines et des dizaines. Et puis, l'équation très complexe, c'est que pendant 50 semaines par an, sous serre et plein champ, des gens vont s'activer pour qu'il y ait 5 à 6 légumes de saison à livrer à des adhérents consommateurs sous forme de panier. Donc, terriblement complexe en termes d'équation. Et puis après, ben, tout ça est animé par des hommes et des femmes. Donc des hommes et des femmes qui, on a à peu près la parité aujourd'hui, qui sont recrutés. Il y a une équipe dite d'encadrement. Ce jardin, il a un directeur ou une directrice. Il a des encadrants techniques qui sont des maraîchers professionnels qui vont avoir une double fonction, faire pousser tous ces légumes pour les adhérents consommateurs, mais en même temps former, accompagner les gens en difficulté qui vont être recrutés sur le territoire, qui seront dans ce jardin moyen au nombre d'une vingtaine. Donc on a 5 hectares, c'est une entreprise qui fait travailler en plein temps 25 personnes. Et tout ce beau monde va produire des légumes pour en moyenne 250 à 300 familles qui seront recrutées sur le territoire. Alors ça, c'est la base. Et en même temps, comme ils n'en ont encore pas assez, généralement, ils vont penser à monter au bout de quelques années une conserverie parce qu'ils ont envie, à des périodes de surplus, de pouvoir pas gâcher les légumes et pouvoir les transformer. Puis c'est toujours très agréable d'avoir du bon coulis de tomates à ouvrir l'hiver. Des choses comme ça. Et puis, après, ils vont accueillir des enfants parce qu'il y a beaucoup de jardins pédagogiques, d'éducation à l'environnement, etc., etc. Donc voilà, un jardin de Cocagne, c'est une espèce de... Comme la légende du pays de Cocagne, on essaie de montrer qu'il y a beaucoup de richesses à tirer de la terre et à tirer de l'humain. Et en rassemblant tout ça, comme on le dit souvent chez nous, entre l'homme et la nature, on a choisi les deux. Moi, ce que je vois dans ces gens en grande difficulté, c'est que la misère les a amenés dans une suprême perversité qui fait que non seulement tout le monde les déteste, mais en plus, ils ont appris à se détester eux-mêmes. Et donc, toute la reconstruction d'une personne qui détestait jusqu'à se reprendre en main, à se reconsidérer, à se faire reconsidérer par l'externe, jusqu'à avoir une autonomie par le travail, on voit que l'autonomie qui est derrière, la reconstruction de cette personne, est largement au moins aussi importante pour nous que le simple fait qu'elle ait une feuille de paye à la fin du mois et de quoi vivre, ce qui est important aussi. Gérer un projet comme un jardin de Cocagne qui est écologique, économique et social, c'est gérer les trois sœurs ennemies du développement durable. Elles se détestent, ces trois sciences-là. C'est facile de dire, je vais faire les trois. Mais dès que tu fais un choix économique, c'est au détriment des deux autres. Dès que tu fais un choix social, c'est au détriment des deux autres. Donc, il faut accepter d'être ce gestionnaire des tensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution pour gérer un jardin de Cocagne. Il y a des jours... De manière pragmatique, parce qu'il faut que j'ai de la thune, il faut que je paye des gens, etc. Il va falloir faire des choix résolument économiques. Mais en même temps, il va falloir que je fasse des choix résolument, de temps en temps, écologiques, parce que je ne peux pas générer. En bio, on est emmerdé par les mauvaises herbes toute la journée. La tendance, ça serait de couvrir les champs de paillage, de plastique. En même temps, c'est un assez bon choix social, parce que quand tu as désherbé un hectare à la main avec tes camarades, c'est plus un boulot, c'est de l'esclavagisme, selon moi. Donc là, voilà la tension qu'on a à avoir toute la journée. Est-ce que je mets du plastique et je génère du plastique? Donc écologiquement, c'est pas terrible, mais socialement, c'est vachement bien, parce que ça économise tout un travail très ingrat. Et puis économiquement, c'est mitigé, ça va me coûter un peu de fric d'acheter ce plastique, mais en même temps, je vais faire des meilleures récoltes parce que je n'aurai pas trop de mauvaises herbes. Donc, c'est quoi la bonne solution? Ben, voilà les genres de dilemmes qui nous traversent la tête toute la journée dans un jardin de Cocagne. Pensée écologique, pensée sociale, pensée économique. Chaque acte, chaque décision, la passer au crible de ces trois questions. Ben, nous, notre système, le consommateur, on travaille avec lui, mais en même temps, on ne lui donne pas le choix. C'est pas lui qui choisit les, comme il est quand il est au supermarché, il choisit, ou quand tu fais le marché, tu choisis ce que tu vas manger. Nous, on lui impose un panier de légumes de saison en bio autour de. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est très sensible au caractère saisonnier, bien entendu qu'il n'achètera pas tout à fait n'importe quoi. Quelqu'un qui a tout petit peu de fibres aujourd'hui va éviter les tomates à Noël, va éviter ce genre de conneries, parce qu'effectivement c'est beaucoup de pétrole, beaucoup de voyages, etc. Donc à partir du moment où tu achètes du légume de saison, bah, le jardin de cocaïne t'amène du légume de saison, puis en plus il va pas oublier de te faire goûter des trucs que t'as pas eu souvent l'occasion de goûter. Donc il y a tout un travail aussi d'éducation qui est fait auprès de chacun de nos adhérents consommateurs, parce que dans chaque panier, chaque semaine, il y a une explication, une histoire de certains légumes et puis des recettes de cuisine, parce que avant tout, ça doit être du plaisir.
Pour finir, on va juste revenir un peu sur l'histoire. Donc les jardins de cocagne, il y a 10 ans, aujourd'hui et dans 10 ans.
Ben, il y a 20 ans, se crée le premier. Il y a 10 ans, on en avait monté 50 et on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça sans amener une structure nationale qui est le réseau cocagne que je dirige aujourd'hui. Et puis dans les 10 ans qui viennent, et ben, dans les quelques années qui me restent à être le directeur de ce réseau cocagne, j'aurais pu volontiers, assez facilement, vivre sur ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire à un mec qui est parti avec 5 personnes et qu'on a 4500 aujourd'hui, puis sans avoir véritablement perdu son âme au passage? Eh bien, pour autant, il va falloir tout changer pour les 10-15 ans qui viennent. Parce qu'effectivement, commercialement, les jardins de cocagne, pendant 15 ans, étaient les seuls à faire une offre de paniers de légumes. Aujourd'hui, tout le monde vend des paniers de légumes. Ils sont bio, ils sont locaux, ils sont paysans, ils sont je sais pas quoi. Les AMAP qui se sont développés, tant mieux, dans toute la France. Donc aujourd'hui, il faut que cocagne, malgré le fait qu'on a été les pionniers et précurseurs pendant 15 ans de ce mode de consommation-là, ben, on invente aujourd'hui des nouvelles voies de commercialisation. On pense aux cantines scolaires, on pense à des tas de choses comme ça. Donc à des produits de transformation, etc. Donc il va falloir se bouger beaucoup sur ces questions-là. Il est vrai aussi que, comme on fait de l'insertion et de la vente de légumes, on était aidé par des pouvoirs publics sur la partie insertion. Les pouvoirs publics, aujourd'hui, leur particularité, c'est de dire « ils me reçoivent partout » de manière très sympathique, en me disant « c'est génial ce que vous faites, mais on n'a plus de fric ». Donc, où je vais trouver le fric aujourd'hui? Donc, il faut trouver d'autres alliances en termes d'argent pour que je puisse continuer à faire travailler des gens en grande difficulté. Donc en l'occurrence, le rapprochement avec le monde de l'entreprise, avec la société civile, sont aussi des sources de financement qui n'ont pas été assez exploitées. Donc le jardin de cocagne dans 15 ans, sans perdre son âme, toujours en faisant de la bio, toujours auprès d'adhérents consommateurs, toujours d'un... Donc nous, le débat stérile actuel que j'entendais encore hier soir à France Inter, est-ce qu'il vaut mieux être bio ou local? On s'en fout, puisque nous, on est bio et local. Puis en plus, on est solidaire. Donc, il n'y a pas à faire le choix de l'un ou l'autre. Il y a notre pays, et c'est pas le seul, est en difficulté. Il doit rembourser beaucoup de dettes. Et puis, pendant ce temps-là, alors qu'il doit, il a moins d'argent, ou en tous les cas, il n'en a pas plus, la pauvreté, l'exclusion, le chômage ne fait qu'augmenter. Il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui flirtent avec le seuil de pauvreté dans ce pays. Et donc, en l'occurrence, ça ne veut pas dire 12 millions d'exclus, de gens en grande difficulté, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même une paupérisation, un appauvrissement général d'une société pour lequel il va falloir être en priorité, trouver des solutions. Moi, mon avis, c'est que c'est plus les pouvoirs publics qui trouveront les solutions seuls. C'est la société civile, c'est le monde de l'entreprise, c'est les pouvoirs publics, c'est tout le monde autour de la table. C'est devenu beaucoup trop important, beaucoup trop crucial pour que ça soit réglé par quelques entrepreneurs sociaux, quelques élus, même s'ils sont géniaux.